Pour retrouver bien la suite de nos réflexions, vous vous souvenez, nous sommes partis de la conviction que Dieu avait pris la parole, avait quelque chose à dire sur le plan moral. Ensuite, nous avons vu quel est le sujet qui doit pouvoir le recevoir, donc la question de la liberté de la conscience. Ensuite, nous avons vu comment la loi avait un complément dans la sagesse des nations, la sagesse d'Israël. Et puis ensuite, nous avons eu une réflexion sur le péché, la rupture entre Dieu et l'homme. Et la dernière fois, c'était un cours un peu curieux, mais que je crois utile. J'avais intitulé « La croisée des chemins ». C'était une réflexion sur l'homme concret, pris entre les faiblesses qui tiennent au péché originel, la dignité que Dieu lui conserve absolument, et finalement le combat spirituel dans lequel il se trouve engagé. Et il me semble, venez, il me semble, tiens d'ailleurs, il y a quelqu'un qui voulait me suivre, qui a l'air de s'être perdu, bon, enfin, voilà, venez. Alors, vous allez avoir droit à un peu de copie en plus. Nous allons rester, vous voyez, je crois que pour toute l'année, au plan de la morale générale, c'est-à-dire, je pensais un moment qu'on irait regarder vers des domaines particuliers, mais je crois que la matière est tellement riche qu'on va plus ou moins continuer l'année comme ça, aujourd'hui avec un cours sur la charité, la fois prochaine sur les vertus. C'est assez classique dans la théologie morale de parler des vertus. Mais la charité, évidemment, est tout à fait à part des autres vertus. On l'appelle une vertu théologale, comme vous savez, c'est-à-dire une vertu qui concerne d'abord Dieu, qui n'est pas simplement une capacité par rapport à nos relations de tous les jours. Alors, donc, il faut essayer de s'expliquer sur cette grande réalité du Nouveau Testament. Voilà, venez, que le Nouveau Testament met au premier plan, bien sûr, et qui découle de Dieu lui-même. Dieu ne partage sa charité, son amour, puisque Dieu est amour. Alors j'entre tout de suite dans le vif du sujet en suivant toujours le plan qui consiste à partir des sources bibliques, patristiques, traditionnelles, avant de donner une synthèse. Alors il me semble d'abord qu'une question de vocabulaire s'impose. En hébreu, le mot amour, ahava, est assez large, puisqu'il s'applique aussi bien à notre amour pour Dieu qu'à notre amour pour les autres. Il inclut l'amitié, l'amour conjugal, l'amour des parents pour les enfants. Entre parenthèses d'ailleurs, le texte de 2 Samuel 1:26, c'est un texte qui aujourd'hui est assez difficile, enfin qui est souvent interprété de façon tendancieuse. C'est après la mort de Jonathan, il y avait une grande amitié entre David et lui, et David dit son amour m'était plus excellent que celui des femmes. Alors on en a déduit évidemment que les relations de David et de Jonathan étaient de type homosexuel, mais justement, c'est qu'on prend amour en un sens plutôt restrictif, qui n'est pas celui du mot « avoir » en hébreu. Par contre, évidemment, en grec, c'est pas tout à fait pareil, parce que le mot principal, c'est le mot « eros », qui, comme vous savez, a un sens quand même assez directement dirigé vers la sexualité. Ce qui amène les traducteurs de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, a préféré un autre mot qui est un mot rare jusque-là, c'est le mot agapé, surtout le verbe agapan. Alors, je ne vais pas entrer dans l'étymologie, mais ça indique une bienveillance, un attachement plutôt du cœur. Donc, c'est le mot qui universellement est employé dans la Septante pour traduire Ahava, dans tous ses emplois. Que ce soit l'amour de Dieu, l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour tout ce qu'on veut. Alors, il y avait un autre mot disponible, beaucoup plus répandu en grec, qui est le mot philia, qui veut dire amitié, mais qu'on trouve très peu dans l'Ancien Testament, uniquement dans les textes de sagesse. Alors, je ne sais pas très bien expliquer ce fait, Mais sans doute, ça mériterait qu'on y réfléchisse. Mais peut-être a-t-il été jugé trop faible pour traduire la notion d'amour telle que le disait le texte hébreu. Alors, le latin, lui, ne connaît pas la même polarisation. Amare, est assez vaste en latin, recouvre pratiquement tous les sens du mot aimer, mais il existe quand même à côté de lui un mot qui désigne l'attachement du cœur, la dilection, comme on dira en français, diligere, qui suppose un choix. Diligo, c'est choisir. Et je crois qu'en espagnol, je ne sais pas s'il y a des hispanisants parmi vous, mais c'est un verbe qui vient de, ça vient de chercher, coere. L'amour, c'est, se dit comme ça. Alors, quant au mot caritas, au mot latin caritas, il vient de carus, c'est-à-dire tu m'es cher, tu as du prix à mes yeux. Charité, c'est donc de créditer Dieu ou le prochain d'un grand prix à nos yeux. Bon, alors, regardons de près l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas rappelé, mais évidemment, il y a les deux commandements qui s'adressent à Dieu au prochain, dans Deutéronome 6 d'un côté, Lévitique 19 de l'autre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et de l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est donc, le mot d'aimer est un mot qui est fort quand même, et qui est employé déjà pour Dieu, ce qui n'est pas sans être surprenant à première vue, mais aussi pour le prochain. Alors, dans le Deutéronome et le Lévitique, on a un très grand nombre de prescriptions qui détaillent cet amour du frère, parce que dans le Deutéronome, on parle plutôt du frère, et dans le Lévitique, on parle plutôt du prochain. Ra, qui est un mot qui a à peu près le sens que nous donnons, nous, un prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de nous par la vie, quoi, celui qui est dans notre entourage. Donc, cet amour du prochain est donc très présent dans une lecture du Lévitique, qui est celle d'ailleurs de la messe d'aujourd'hui, on dit, ben voilà, tu ne mettras pas d'obstacle sous les pas d'un aveugle, tu ne te moqueras pas d'un sourd, tu veilleras à celui qui est en difficulté. Deutéronome, son côté, nous dit, si tu as un frère pauvre dans ta ville, eh bien, fais que vienne son secours. Enfin, il y a toutes sortes de commandements dans la loi de Moïse qui sont vraiment l'expression de cette charité très, très forte, très délicate aussi, qui s'adresse aux plus faibles. Donc, alors on dit souvent, oui, mais c'est restrictif dans l'Ancien Testament, ça s'adresse surtout aux gens du même entourage familial ou à la limite du même peuple, le peuple d'Israël, mais on dit quand même, on parle même d'aimer l'étranger. Deutéronome 10-19. On remarque une chose intéressante aussi, c'est que ce qu'on nous demande d'aimer, c'est toujours des personnes, c'est pas des collectifs. On n'aime pas l'humanité, on n'aime pas un peuple en tant que peuple, on aime des personnes. L'amour est toujours personnel et ça se trouve également dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il n'y a aucun cas où on a comme complément un nom générique. Alors bien sûr, cet amour s'articule en une quantité de commandements concrets, je vous en ai énuméré quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, et on va jusqu'à certains soucis même de celui qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est-à-dire le voisin grincheux, l'adversaire en justice, et Deutéronome envisage même de ne pas poursuivre son ennemi jusqu'à extermination, quoi, de vouloir lui faire une place. Alors, c'est très développé pour le pauvre et aussi pour le handicapé, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, chez les prophètes, ceci est très important parce que sans cesse, les prophètes nous disent le culte, c'est très important, mais attention, il il faut qu'en même temps la conduite morale suive. Un premier qui pousse des hurlements contre l'injustice sociale, contre la brutalité, c'est le prophète Amos. C'est le premier prophète dont nous ayons les écrits, hein, c'est très ancien, c'est le 8e siècle, et bien le prophète Amos, mais côte à côte, l'impiété des Israélites qui se moquent pas mal du bon Dieu, mais aussi leur défaillance dans le domaine du respect des pauvres, de la justice et de tout ça. Alors, on met en la fameuse altercation de Jérémie qui a prononcé devant le temple de Jérusalem, quoi, voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer en sens et Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire « Nous voilà en sécurité », puis continuer toutes ces abominations, ben c'est abominable, effectivement. Là, cette espèce de contradiction entre le culte qui veut dire qu'on remet toute sa vie à Dieu, et puis, par ailleurs, des comportements dans lesquels on s'arrange à défendre ses intérêts au détriment des autres. Et ceci, bien sûr, caractérise très nettement la religion d'Israël, dans laquelle la divinité, n'ayant pas d'intérêt pour elle, Dieu, les sacrifices, ça lui apporte rien en tant que tel, hein, il est libre. Et donc, il peut reprocher à son peuple ses comportements incohérents. Il n'est pas comme les dieux païens qui étaient liés par une sorte de contrat d'intérêt par lequel ils disaient si je leur écoute trop, ils vont plus me faire d'offrandes ni de sacrifices. Alors, on trouve encore dans la sagesse beaucoup de conseils dans ce domaine. Et notamment, là je vous cite un proverbe, qui méprise son prochain pêche, heureux qui a pitié des pauvres. Voilà. Et dans le même sens qu'Amos, abomination pour le Seigneur, sacrifice des méchants, abomination pour le Seigneur, mauvaise conduite. Donc tout ça c'est la même revendication de cohérence par rapport à la religion d'Israël qui engage donc la vie concrète, y compris dans les rapports avec les plus faibles. Alors, nous arrivons comme ça au Nouveau Testament, qui évidemment sur ce sujet est le plus important. Bon, d'abord, Jésus, ça c'est bien connu, a mis en rapport les deux commandements de Deutéronome 6 et Lévitique 19, là, en les rapprochant l'un de l'autre, et ça, à ma connaissance, ça n'avait jamais été fait avant. Mais il faut voir justement comment il les rapproche. Parce que on voit que parfois, on dit oh ben, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est un peu la même chose, et à la limite, l'un remplace l'autre. Or, c'est pas tout à fait ce que disent. Alors, je vous les cite dans les trois synoptiques qui sont un petit peu différents sur ce chapitre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tel est le premier commandement. Le second lui est semblable. Alors, c'est le mot important, semblable. Qu'est-ce que porte ce mot de semblable ? Tu aimeras ton prochain comme toi. Dans ces deux commandements, donc ils sont quand même nuls. Vrai, l'un à côté de l'autre, deux commandements. Bien. Alors, le second lui est semblable en importance, ça on peut comprendre comme ça, c'est pas au sens où ça dit exactement la même chose, mais dans lequel il y a vraiment une parenté profonde entre ces deux commandements. Alors, dans sa marque, le premier commandement est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu ». Alors, le cardinal Lustiger faisait souvent remarquer que le premier commandement, c'est d'abord écoute. Première chose qui est demandée au peuple de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est ça le premier commandement. Mais enfin, ça continue évidemment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, tout ta foi. Alors Jésus rajoute un terme. Ça aussi, c'est pas souvent remarqué. Le Deutéronome ne, ne mentionnez pas de tout ton esprit, et ton âme, ton cœur, ton âme et ta force. Jésus rajoute « et de tout ton esprit ». Donc, ça veut dire une adhésion aussi de l'intelligence, pas seulement de la volonté et de la sensibilité. Le second est « il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela ». Donc Jésus parle d'un premier et d'un second, il n'y a pas le mot « semblable » ici, mais en tout cas, il n'y a rien au-dessus. Donc Saint Luc dit plus sobrement « tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi ». C'est le résumé, évidemment, il n'y a pas... Mais, finalement, le lien n'est pas complètement explicité. Pourquoi Jésus dit qu'ils sont semblables? Ça nous pose une question, c'est-à-dire de voir comment, semble-t-il, enfin, si nous sommes par rapport à Dieu comme des enfants vis-à-vis de leur père, eh bien nous ne pouvons pas ne pas faire une place à nos frères qui sont aussi les enfants du même père. Donc, Jésus ne le dit pas explicitement, mais enfin, on a quand même l'impression que c'est ça la conclusion. Bon, dans pas mal de textes de Saint Paul, par exemple, eh bien, la référence au commandement unique et central de la charité fraternelle est plusieurs fois rappelée. Souvent, Saint Paul raisonne en disant qui peut le plus, peut le moins. Enfin, donc, l'amour du prochain, c'est le sommet. Donc, si on fait ça, on fait aussi forcément tout le reste. Tous les autres commandements, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas... Sont plus ou moins inclus dedans, quoi. On a même presque plus à les détailler. Donc la charité n'est pas donnée comme un surcroît par rapport aux attitudes, aux autres prescriptions, mais c'est plutôt, elle donne l'esprit, l'intention dans lequel on pratique les autres commandements, qui ne sont plus seulement négatifs, comme ne pas tuer, mais qui ont un côté profondément positif, c'est précis. Il ne s'agit pas d'éviter une faute et de ne pas léser le prochain, il s'agit de l'aimer, ce qui va quand même un petit peu plus loin. Alors chez Saint Jean, on trouve aussi l'idée qu'il y a une sorte de renvoi entre les commandements au pluriel et le commandement. Donc, Jésus parle de ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, Jésus prend à son compte le commandement du Lévitique, Lévitique 19, et dit cette fois-ci, bien, c'est mon commandement. C'est ça que je vous demande de façon très précise. Mais si vous écoutez mon commandement, alors vous vivrez d'après mes commandements au pluriel. Si en quelque sorte il y avait le principe général, la ligne de crête, et puis aussi toutes les déterminations concrètes qui vont avec. Parce que aimer, c'est quand même, ça peut paraître général, il faut se rendre compte que ça rentre dans le concret. D'ailleurs, Saint Jean le dit aussi dans sa première lettre, il ne s'agit pas d'aimer en parole, mais en acte et en vérité. Là, qui dira, mais oui, j'aime beaucoup les autres, mais enfin, dans la pratique, je laisse mourir de faim, eh bien non, ça ne va pas. Alors, chez Saint Jean encore, il y a... très souvent, Saint Jean est un peu comme ça, cyclique, enfin, il y a un renvoi. Donc, il y a le fameux texte que nous connaissons tous, où il dit, celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il n'aime pas son frère est un menteur. Mais il y a aussi l'inverse, il dit, si nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, est-ce que nous aimons Dieu? Donc, il dit, n'y a pas non plus l'amour du prochain sans l'amour de Dieu. Donc, il y a le renvoi de l'un à l'autre. Alors, à tout moment, évidemment, dans le Nouveau Testament, l'amour du prochain est vu comme une participation à l'amour de Dieu et à l'amour de Jésus. Comme je vous ai aimé. Comme. Alors, comme, ça, c'est à l'imitation d'eux, de la même manière qu'eux. peut-être pas autant, parce que nous ne sommes pas au niveau de Jésus, mais au moins c'est dans le prolongement de l'amour que Jésus a pour nous. Et Saint Jean redit, l'amour vient de Dieu. Et Saint Paul dit qu'il a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Donc Dieu nous a partagé ce qui est sa manière d'être, qui est sa vie même dans la Trinité, nous l'a partagé, nous la recevons, et nous essayons d'être en quelque sorte dans le prolongement de ce qu'il nous a montré. Alors dans mon point 4, là je fais allusion à une chose qui a été dite par l'exégète très connu début du XXe siècle, qui s'appelait Bultmann, qui disait, au fond, il y a une grande différence entre Saint Jean et les synoptiques. Les synoptiques parlent de l'amour des ennemis, tandis que Saint Jean parle de l'amour des amis. Hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors lui, il allait jusqu'à opposer une vision centrée sur la communauté, où on s'aime bien, on a des tas de... Et puis l'audace d'aller vers les autres, vers ceux qui sont plus loin. En fait, c'est un peu faux comme opposition, parce que quand Jésus, dans le texte de Matthieu 5 par exemple, nous dit d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, le but c'est quand même justement de les faire entrer dans le cercle de nos ennemis. C'est pas de... la difficulté sans doute, mais c'est quand même ça qu'il s'agit de viser, c'est de transformer cette animosité en l'occasion de leur partager quelque chose et d'en faire nos amis, quoi, à la fin. Et donc, c'est pas si opposé que ça. Et de même, quand Saint Jean parle de l'amour à l'intérieur de la communauté, d'abord, c'est pas toujours plus facile à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur. Et puis, surtout, c'est un point de départ pour aller vers les autres. Donc, il faut peut-être pas s'engager dans cette opposition. De toute façon, aussi bien Saint Jean que Saint Matthieu, par exemple, dans ce qu'on appelle quelquefois le discours ecclésiastique, c'est-à-dire un discours dans lequel Jésus parle de la vie dans la communauté chrétienne, on envisage toujours que, malgré l'amour qui doit régner, il y aura bien des moments où il faudra des sévérités, il faudra marquer des limites, il faudra même exclure peut-être certains. L'amour que Jésus recommande et que Saint Jean nous présente, c'est pas de laisser faire, de trouver tout le monde est beau et gentil, et il comporte des exigences. On sait que par Polycarpe de Smyrne, il raconte que Saint Jean est extrêmement en défiance contre les hérétiques, contre ceux qui avaient une doctrine fausse. Il paraît que quand il allait prendre son bain dans son établissement de bain, les thermes, comme on disait, il dit, ah non, je ne peux pas rester là parce qu'il y a un hérétique et le ciel, la maison pourrait s'effondrer, je m'en vais. Le doux Saint Jean, le chantre de l'amour, est quand même l'idée que quand on s'est coupé de la communauté chrétienne, on s'est coupé quand même de la communauté chrétienne. Vous voyez, cet amour dont on nous parle, c'est pas la facilité, c'est pas d'accepter tout, il y a bien la nécessité, par moment, de mettre des barrières, des limites, pas pour exclure, mais espérant qu'un jour ou l'autre, il va pouvoir revenir. Alors, Saint Paul parle beaucoup de ça aussi, de l'exclusion temporaire d'un membre, et celui qui s'est mal conduit, là, qui s'est mis à vivre avec sa belle-mère, ou sa belle-sœur, je ne sais plus, dans 1 Corinthiens, chapitre, je crois, 6 de... premier aux Corinthiens, ben là aussi, il demande une excommunication, mais avec une idée de pouvoir le faire rentrer un jour. Donc l'amour peut aller jusqu'à une certaine sévérité et jusqu'à mettre des barrières. Alors ceci dit, revenons au positif, là nous étions dans les limites. Mais au cœur de cet amour, il y a cette chose tellement belle, tellement magnifique que nous décrit notamment Saint Paul dans ce qu'on appelle quelquefois l'hymne à la charité, le chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Vous savez, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour attends tout, etc. Et puis Jésus qui dit pardonnez 70 fois, 7 fois, etc. Enfin, il s'agit de quelque chose de magnifique. Enfin, il s'agit de cette capacité d'accueillir l'autre, même qui nous blesse parfois, et de non seulement de le supporter, mais de l'accueillir comme avec toute la sympathie, toute l'espérance possible de voir en lui plus que cet être un peu désagréable qu'on voit pour l'instant, mais de le croire capable d'être le meilleur. Et dès que ça va dans ce sens-là, de l'accueillir et de lui redonner sa place, lui donner toute la confiance qui va permettre qu'il s'épanouisse. Donc voilà. Alors, dans la tradition de l'Église, il y a pas mal de choses importantes qu'on peut mentionner. Saint Augustin, souvent on l'appelle le docteur de l'amour, alors de l'amour de Dieu d'abord, bien sûr, mais aussi de l'amour entre les membres de la communauté chrétienne. Alors vous savez peut-être qu'il a connu très douloureusement un schisme, qu'on appelle le schisme donatiste, pas entrer dans les raisons de cette affaire-là, mais ça a été vraiment une déchirure dans l'Église qui l'a fait énormément souffrir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a médité la première lettre de Jean. Son commentaire de la première lettre de Jean, que je vous recommande, hein, il a été traduit maintenant de nombreuses fois, hein, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Alors c'est lui qui a cette formule, ce que tu aimes dans ton ennemi n'est pas ce qu'il est, mais ce que tu veux qu'il soit. C'est-à-dire, quand tu vois ce qu'il y a de désagréable dans ton ennemi, ce côté violent, égoïste, tout ce qu'on veut, eh bien, en fait, c'est pas vraiment lui, quoi. C'est une pièce rapportée, et toi, tu dois avoir un regard beaucoup plus réaliste, de voir en lui l'enfant de Dieu blessé par son péché, mais qui demande encore plus de soins, encore plus d'amour, parce que, justement, il est blessé. Ça, c'est parfaitement juste, quoi. Souvent, ce qui fait que les autres ont tel défaut qui nous est dur, ils en souffrent presque autant que nous, quoi. Ils encaissent quelque chose qu'ils ont reçu eux-mêmes, ils encaissent certaines des choses qui les ont affectés eux-mêmes à un moment de leur vie. Et donc, notre charité a pour but de les aider à sortir de ça, sortir de ce qui est une souffrance d'abord pour eux avant de l'être pour nous. Et donc, Saint Augustin insiste aussi sur un fait qui... Parce qu'on dit qu'il faut aimer en acte et en vérité, c'est bien vrai, Saint Jean l'a dit, il ne faut pas se contenter de paroles. Mais les actes peuvent aussi être trompeurs. On peut faire des actes extérieurement généreux dans lesquels il n'y a pas vraiment de l'amour. Et comme ça, c'est pas ça d'ailleurs, comme dans la pièce de Molière, quand Don Juan jette une pièce à un pauvre en disant « Tiens, voilà, par amour de l'humanité, en fait, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. » Donc, celui qui aime ne peut pas pécher. Il tire cela de Saint Jean qui dit quelque part que quand on est rené de Dieu, on ne pêche plus. Alors, malheureusement, notre expérience, c'est que nous sommes pécheurs, bien sûr, mais il y a au fond de notre vie baptismale, il y a quelque chose de tellement fort, de tellement important, que d'une certaine manière, ça nous tire de ça, et si nous y croyons, si nous appuyons sur le don que nous avons reçu, eh bien, nous allons pouvoir nous déprendre de ce péché. Et donc, Saint Jean part vraiment de cette constatation, enfin, cet acte de foi. Hein, et si tu vois la charité, tu vois Dieu. Donc, il y a Dieu lui-même qui est en acte dans notre cœur quand nous réapprenons, nous mettons en œuvre cet amour qui vient de notre baptême. Sensibilisation des chrétiens aux dimensions sociales de la charité. On voit ça apparaître notamment avec les pères cappadociens, puis Saint Jean Chrysostome qui a formé cette formule qui a été très reprise au XXe siècle, le sacrement du frère. Et voilà, il y a le sacrement de l'autel, mais il y a aussi le sacrement du frère, c'est-à-dire d'aller vers celui qui peine et qui est en difficulté, eh bien c'est aussi une manière de rencontrer. Alors il y a aussi, plus tard, ce personnage énigmatique qu'on appelle Denis l'Aréopagite, qui s'appelait sans doute pas Denis et qui n'était pas membre de l'Aréopage, mais qui est un auteur dont on ne saura jamais le nom, qui nous a livré des textes théologiques, spirituels, très impressionnants, un peu difficiles d'ailleurs de lecture. Et lui pense que le mot Eros, que les écrivains chrétiens ont tenu à l'écart, comme la Bible d'ailleurs, eh bien, il pourrait quand même rentrer dans le vocabulaire chrétien parce que l'amour est unitif. L'amour n'est pas seulement une espèce de bienveillance à distance, il aspire à tout partager avec l'être aimé. Et en ce sens, le mot Eros peut avoir sa place dans le langage chrétien, à condition évidemment garder de ces déviances ou de ces excès. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on voit apparaître de plus en plus de commentaires du Cantique des Cantiques, où la réalité érotique est quand même extrêmement présente, mais réinterprétée, évidemment, spiritualisée, et surtout dans tout le Moyen-Âge, on voit la place que ça a. Saint Maxime le Confesseur, je passe rapidement. Les cisterciens, alors spécialement Saint Bernard, bien sûr, ont fait une place immense à l'amour. Il faut dire que ça correspondait à un temps dans la société occidentale où, après les temps un peu durs, un peu barbares, on retrouvait, on a pu dire que l'amour était un sentiment qui naît au XIIe siècle. Tony de Rougemont avait écrit un livre comme ça en 48, je crois. L'amour naît en Occident au XIIe siècle. C'est un peu excessif quand même, mais enfin, c'est vrai que le langage amoureux se développe à cette époque-là. L'amour courtois, le seigneur pour sa dame, un grand respect de la femme, de tout ça. Enfin, tout ça, c'était quand même pas très mis en valeur jusque-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a une transposition dans le christianisme à travers la mystique, mais aussi à travers une attention à la charité fraternelle. Alors là, je vous cite un cas assez intéressant qui est celui d'Aelred de Rievaulx, qui est en fait un Écossais d'origine, mais qui est venu en France pour rencontrer Saint Bernard. Il semble qu'il avait une expérience, disons, homosexuelle, et que au contact de la spiritualité bernardine, il a transfiguré ça dans une amitié, une capacité d'amitié complètement dégagée de tout acte répréhensible, mais dans lequel il fait une place quand même à la réalité de l'amitié fidèle, de l'amitié délicate, de l'amitié prévenante, de l'amitié... Donc, il a écrit des choses assez admirables là-dessus, et il y a eu des associations qui se sont fondées dans l'Église ces dernières années sous le patronage de Saint Aelred de Rievaulx pour aider des gens qui ont, disons, des tendances homosexuelles à surmonter leurs difficultés pour arriver à avoir des amitiés qui étaient des amitiés très belles, très fidèles à Dieu, très respectueuses, etc. Et Saint Bernard, qui a beaucoup dirigé d'âme, parle souvent de l'amour de bénévolence, qui distingue de l'amour de concupiscence. Bénévolence, vouloir le bien du haut, désintéressé devant se rendre heureux, vouloir lui permettre de s'épanouir en s'oubliant soi-même. Saint Thomas d'Aquin, évidemment, a parlé de la charité dans le mot très important. Son problème, parce que vous savez, on le dira d'ailleurs beaucoup dans le prochain cours, son problème, ses convictions intellectuelles l'ont amené à mettre en avant les vertus morales à l'école d'Aristote et des stoïciens. Mettre en valeur la force, la prudence, la tempérance et la quatrième, la justice. Hein, les quatre vertus cardinales. Et donc de montrer que la morale, c'est aussi de mettre en valeur de belles attitudes morales. Mais évidemment, comme il est chrétien, il se dit, oui, mais rien de tout ça ne suffit à mettre l'homme dans la vérité face à Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus que ça. Eh bien, ce plus, c'est la charité. La charité, comme il dit, informe, donne forme aux vertus. Par exemple, la justice, c'est bien d'être juste, c'est de rendre à l'autre ce qu'on lui doit. Hein, on me fait un emprunt, ben je rends mon emprunt, je suis juste. Hein, ou si je suis un chef, un souverain, je répartis également les récompenses, les travaux, etc. Ça, c'est la justice. Mais la charité peut donner un dynamisme à la vertu qui va plus loin, qui est un véritable amour de l'autre. Parce qu'il n'y a pas forcément de l'amour dans la justice, on est a priori, chacun chez soi, chacun son dû, vas-y, bye bye, c'est terminé. Tandis que il y a une manière d'exercer la justice qui est inspirée par l'amour. Et c'est celle-là qui est salvatrice. Donc, cette idée de la charité comme forme des vertus, une idée très féconde à mon avis, mais il faudrait le développer, parce que c'est pas seulement sur le papier qu'il faut arriver à comprendre comment chaque vertu, alors on s'y exercera peut-être un peu avec le prochain cours, peut tirer de la charité, enfin, être comme survolté par la charité. Alors, je passe rapidement sur quelques débats modernes, même si vous mesurez bien leur importance. Hein, d'abord, nous avons assisté, enfin, on peut dire sur 200 ans, à même plus, à des allées et venues entre une idéalisation de l'amour humain et puis une dépréciation. Pascal, c'est assez terrible dans les pensées de Pascal, vous avez dit, ben, voyez, un tel aime une personne, mais qu'est-ce qu'il aime ? Il aime la forme du bout de son nez, il aime son manteau, il aime ses dignités, il aime ses quoi. Tout ça, ça va changer. Là, je vais transformer le visage, les fonctions ne seront plus les mêmes. Alors, nous aimons des choses étrangères, nous n'aimons jamais que des qualités à emprunter. C'est assez terrible. Enfin, moi, j'aime beaucoup Pascal, mais je trouve quand même que là, il y va un peu fort. Il y va un peu fort. Alors, par opposition, bien sûr, il y a le romantisme, alors l'amour sentimental, etc. Notre époque a été marquée durablement par la réduction, au contraire de l'amour, hein, c'est des terminations les plus instinctives et de ces motivations très souvent très instinctives. Les charité et justice, alors c'est plutôt venu du socialisme et du marxisme qui ont accusé la bienfaisance chrétienne d'être légère. On donne un sou à un pauvre, mais pendant ce temps-là, on soutient un système, soi-disant, enfin, qui souvent même, il faut reconnaître, est oppressif, qui écrase les prolétaires, enfin, etc. Enfin, vous voyez la question qui a été posée, ben, les chrétiens ont dû répondre à cette question en profondeur, dire, ben, la charité, c'est pas seulement de donner un sou comme ça pour se donner bonne conscience, mais c'est aussi de vrai pour améliorer les choses, évidemment. Alors un débat qui a fait rage aussi dans le XXe siècle, c'est cette histoire d'Eros et Agapé. Parce qu'on s'est avisé qu'effectivement l'amour chrétien, l'amour dont parle la Bible, n'est pas cet amour captateur, prédatif presque, qui est l'Eros grec, c'est-à-dire de Platon, L'amour est fils de pénurie, comme il dit, c'est-à-dire parce qu'il nous manque quelque chose, alors on cherche notre complément, quoi. Alors, ça pousse les hommes vers les femmes vers les hommes, les homosexuels les uns vers les autres, etc. On cherche chacun quelque chose qui nous manque. Alors c'est pas... C'est extrêmement... C'est un peu terrible, quoi. C'est de chercher dans l'autre la, ce qui nous manque. Enfin, c'est, et une fois qu'on l'a trouvé, ben, on n'a plus besoin de l'autre, à la limite. Donc, Nygren, qui était un luthérien suédois, a beaucoup développé l'idée que le christianisme, ben, c'était l'amour totalement désintéressé, comme celui de Dieu. On donne sans espérer rien de retour. Et alors, ce qui avait le plus impressionnant, c'est qu'il disait, ben, dans ce cas-là, la religion n'a pas sa place dans le christianisme. Parce que la religion, ça serait un Dieu qui attendrait de l'homme une réponse de... culte, de la mystique, de tout ça, de la pénitence. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est totale donation. Il n'attend rien de nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est de faire la même chose que ce qu'il fait vis-à-vis des autres. Il n'y a jamais de retour. Or, c'est quand même un peu fort, ça, parce que l'amour est certainement, le véritable amour est certainement désintéressé, mais il n'est pas désintéressé de la réponse qui lui est donnée. Quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », c'est parce qu'il attend de nous quand même quelque chose. Donc, c'est là que sans doute une certaine conciliation entre Eros et Agapé est sans doute nécessaire. Alors, celui qui l'a orchestré le mieux, c'est le pape Benoît XVI dans son extraordinaire encyclique Deus Caritas Est, qui, à mon avis, a redonné l'unité de la vision chrétienne de l'amour entre Eros et Agapé. Disant que oui, c'est vrai, il y a une certaine, Eros a une certaine place dans l'amour chrétien, dans l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour conjugal, bien sûr, mais à tous les niveaux, il y a les deux versants. Il y a le don totalement gratuit à l'autre, mais aussi le désir que l'autre profite et qu'on puisse tisser ensemble quelque chose d'heureux, quelque chose de durable, quelque chose dans lequel on trouve l'un et l'autre sa joie, et que ceci n'est pas une vision tellement désincarnée finalement de l'amour, n'est pas juste à la limite. Mais on la trouve particulièrement chez Gide, vous savez, par ailleurs les tendances, mais qui... dans la portée étroite, présente comme ça un personnage tellement désintéressé que, ben voilà, il aime une jeune fille, ça a l'air de pas se passer bien, mais dit non, je risque finalement trop m'attacher, je risque de tout ça. Alors il coupe, il se sépare, enfin, une espèce de froideur enfin, qui se dégage de ça, qui n'est pas chrétienne, enfin, même si c'est enveloppé de motivation chrétienne. Alors le dernier débat, alors qui est beaucoup plus contemporain, c'est le fameux débat amour de Dieu, amour des hommes. On a vu beaucoup après 68, au fond, quand on aime les hommes, on aime Dieu. Servir le pauvre, c'est servir Dieu, donc on n'a pas besoin de religion pour ça, donc tout l'essentiel est là. Donc voilà, toutes ces questions. Alors je ne vais pas répondre à tout ça, bien sûr, mais je vais essayer quand même dans ma synthèse, un petit quart d'heure qui me reste, de dire l'essentiel. D'abord, les trois amours. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle des trois amours? Je veux dire que, eh bien, il y a un amour de soi, d'abord, qui est légitime. Je crois que l'idée par laquelle on dirait qu'il ne faut pas s'aimer, c'est déjà mal parti. Hein. Dieu ne nous a pas demandé de ne pas nous aimer. La preuve, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est pas mal de s'aimer. Hein. Il y a une manière de s'aimer en Dieu qui est non seulement supportable, mais même bénéfique. Parce que ce que j'aime quand je m'aime en Dieu, c'est ce que j'aime, ce que Dieu aime aussi. C'est-à-dire cette petite créature que Dieu a faite et qui l'enveloppe de ses soins et dont il souhaite qu'elle se développe dans le sens que lui a prévu. Donc, de s'aimer, c'est vouloir la réussite de sa vie, par exemple. C'est pas se dire, ben voilà, j'ai tout raté, ben c'est encore mieux. Non, le véritable amour de soi n'est pas égoïste. Il est au contraire le désir de servir en nous ce que Dieu lui-même aime en nous. Donc aimer son prochain n'est pas découle en fait, d'une certaine manière de là. Mon prochain, je sais que lui aussi est aimé de Dieu, que lui aussi a une place dans le cœur de Dieu. Et comment pourrais-je vouloir bénéficier des dons de Dieu si en quelque sorte, comme un mauvais frère, je m'arroge tout le privilège et je ne veux pas le partager. C'est donc dans le mouvement même où nous reconnaissons l'importance de ce que Dieu a fait pour nous qu'on souhaite pouvoir le partager, parce qu'on sait que plus on va le partager avec les autres, plus en fait Dieu nous comblera nous-mêmes. Et la mesure dont vous servez avec les autres, c'est celle-là dont on servira pour vous, dit Jésus. C'est profondément vrai. Quand nous donnons, nous recevons. Nous recevons même plus que ce que nous donnons. Et bien sûr, le troisième amour, c'est notre amour de Dieu lui-même, qui est la source de tout ça. C'est en aimant Dieu que finalement je vais trouver ma place et que mon prochain va devenir ce partenaire supportable avec lequel je vais cheminer pour essayer de lui donner le meilleur de moi-même et en même temps que je recevrai sans doute de lui peut-être quelque chose aussi de l'amour de Dieu qui, sans chercher à le capter pour moi, sans chercher à le mettre à mon service, mais qui me renverra comme image de Dieu et qui me permettra aussi par ce moyen-là d'être heureux. Alors, la deuxième question, c'est ce qui est mon prochain. Vous savez, cette fameuse question qu'on pose à Jésus dans l'épisode du bon samaritain. Qui est mon prochain ? Jésus raconte l'histoire du bon samaritain. Alors là, il dit, c'est moi vous raconter un épisode récent de ma vie. J'étais en Côte d'Ivoire la semaine dernière et je me suis trouvé avoir à parler à une assemblée assez nombreuse. Et on me dit, vous savez, l'archevêque d'Abidjan a demandé qu'on commente la parabole du bon samaritain. Alors, j'avais envie de parler de l'évangélisation. Alors, j'ai dit, mais vous savez, la parabole du bon samaritain, moi, voilà ce que les pères de l'Église comprennent dans la parabole du bon samaritain. C'est qu'en fait, le bon samaritain, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient au-devant du blessé, qui est l'humanité. Et vous voyez, ce blessé, ni le prêtre du temple de Jérusalem, ni le lévite ne peuvent lui apporter grand-chose. C'est pour ça qu'ils s'écartent, ils ne s'arrêtent même pas, parce qu'ils n'ont pas le moyen de le soigner. C'est ce que Jésus, qui est le samaritain, parce qu'il n'a pas part à notre aventure jusque-là, il s'est approché de nous, il n'avait aucune obligation vis-à-vis de nous, mais il a voulu venir chez nous, et voilà qu'il trouve ce pauvre blessé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met sur ses plaies de l'huile et du vin. Il met les deux sacrements de l'Eucharistie et de l'onction, et il va le charger sur sa monture, comme il a porté sa croix, et il va l'amener où ? À l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est bien sûr l'église, dans laquelle ce blessé va pouvoir se refaire jusqu'à son retour, jusqu'à ce que Christ revienne. Et que laisse-t-il en son absence ? Mais il laisse deux deniers qui correspondent précisément aux deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain, comme une espèce de testament, de liste, d'une consigne qu'il donne pour une vie heureuse. Donc, tout le monde est tombé à la renverse parce que personne n'avait jamais entendu cette interprétation du bon samaritain. Et pourtant, moi, je crois qu'elle est authentique parce que si c'était l'autre qu'on donne souvent, dire, vous voyez, il faut que notre charité soit ouverte, qu'on aille même jusqu'à des gens qui ne sont pas de notre ethnie, qui ne sont pas de notre groupe, dans ce cas-là, ce ne serait pas le samaritain qui ferait ça, on le ferait pour un samaritain. Mais précisément, le fait que ce soit un samaritain nous alerte sur le fait que, en réalité, ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est le premier pas que lui a fait vers notre humanité. Alors bien sûr, ensuite, ça nous donne comme obligation de faire pareil avec les autres. La conclusion morale, je ne la refuse pas, bien sûr, mais elle n'est jamais que seconde par rapport à la découverte de cet abaissement que le Christ a consenti pour venir chez nous. C'est parce qu'il l'a fait sur nous qu'ensuite on va essayer de le faire sur les autres. Alors, puisque je suis à bousculer les idées reçues, je vais revenir sur Matthieu 25, qui était d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui à la messe, si vous avez été à la messe aujourd'hui, qui était le texte bien connu du jugement dernier en Matthieu 25, dans lequel, vous savez, l'interprétation habituelle. Or, il y a un trait curieux, c'est que dans le début, on nous dit, quand le Fils de l'homme viendra entouré de tous ses anges, il fera comparaître toutes les nations. Toutes les nations, c'est-à-dire les goyim, enfin les non-juifs, tous ceux qui composent ceux qui n'ont pas encore la foi. Et pense avec le cardinal Lustiger, je l'abrite derrière son autorité, hein, qu'en réalité cette parabole essaie de répondre à la question « Qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas rencontré l'Église, qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas… Et sur quoi seront-ils jugés ?» Or, ils seront jugés sur leur attitude vis-à-vis de ce que Jésus appelle ses petits, qui sont ses frères. C'est probablement une manière de désigner les chrétiens, qui sont, on le voit dans une autre parabole, où il dit celui qui scandalisera l'un de ses petits, et là c'est visiblement les chrétiens les plus faibles. Donc, si je ne me trompe pas, ça veut dire que le sens de cette parabole, c'est de dire que pour ceux qui n'ont pas eu de contact avec la révélation, leur jugement se fera autour de ce qu'ils auront vu des chrétiens, de la manière dont ils les auront reçus, ou au contraire négligés ou brutalisés, et qu'en fait, le jugement des infidèles se fera autour, non pas de la personne du Christ, puisqu'ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas rencontré, mais à travers ses disciples qu'ils auront au contraire rencontrés. Alors je sais bien que ça peut faire crier cette interprétation, mais à mon avis, elle n'exclut pas l'autre, parce qu'évidemment, là aussi, il faut qu'on en prenne de la graine. Hein, si c'est vrai des non-chrétiens, il faut que ça soit encore plus vrai de nous, et que ce que nous fassions, ça soit d'aller au-devant de ceux qui souffrent, etc., et tout ça pour l'amour du Christ. Mais si jamais, comme on le fait souvent, on prend cette parabole au sens que, au fond, qu'on reconnaisse le Christ ou qu'on ne reconnaisse pas, ce qui nous sauvera, ça sera la bienfaisance ou la philanthropie, eh bien, ça voudrait dire que, en fait, on n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par la morale, enfin. Et je crois que nous sommes en contradiction avec le christianisme, avec les vertus, nous sommes sauvés par la foi. Mais pour ceux qui n'ont pas pu reconnaître le Christ, eh bien, semble-t-il, Jésus ouvre cette porte de dire il y aura un jugement pour eux aussi, et ce jugement s'exercera sur la manière dont ils auront accueilli les disciples du Christ. Alors vous me direz, mais ceux qui n'auront même pas connu les disciples du Christ, alors ça c'est une autre question. Moi, pour moi, c'est la question de la descente aux enfers, mais peut-être, c'est pas notre sujet aujourd'hui, on en parlera. Donc, alors, vous voyez, cette subversion des deux paraboles, enfin subversion, j'exagère, cette interprétation des deux paraboles du bon samaritain et du jugement dernier, nous aide peut-être à ressaisir hein, cette question de Jésus qui est mon prochain. En réalité, Jésus a fait le premier pas dans notre direction, et nous, à notre tour, c'est sûr qu'il faut aussi qu'on fasse le premier pas. Parce que comme on disait, je crois, dans un cours précédent, le problème de notre relation avec les autres, c'est que si nous restons dans le rapport de réciprocité, où chacun attend que l'autre fasse un pas, et puis qu'on fasse un pas en retour, en fait, on attendra longtemps. Et que dans tous les cas difficiles, en réalité, où la réciprocité ne fonctionne pas, ce qui est demandé aux chrétiens, c'est de faire la première avance. Si on vole, peut-être. On te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Donc ce que Jésus propose, c'est ce qu'il a vécu lui-même, hein, c'est-à-dire cette espèce de premier pas qu'il a fait, hein, notamment qu'on voit avec le bon samaritain, dans lequel c'est lui qui est venu chercher le blessé et qui l'a remis en vie. Alors, Ma dernière petite piste qui pourrait être prolongée, c'est quelle visibilité à l'amour. Parce que la difficulté, c'est que l'amour, véritable amour, l'amour chrétien, l'amour dont parle saint Paul, par exemple, dans l'hymne à la charité, il ne se réduit pas à un comportement extérieur. Saint Paul dit, je pourrais donner tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Alors on a envie de dire, mais alors qu'est-ce que c'est que la charité? Si même de donner tous ses biens aux pauvres, ce n'est pas la charité, alors qu'est-ce que c'est que la charité? De même, il dit, je pourrais livrer ma vie aux flammes et avoir la foi jusqu'à affronter la persécution. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert de rien. Saint Paul a l'air de mettre une grande distance entre véritable amour qui est au fond du cœur et puis les comportements extérieurs. Alors bien sûr, il n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de comportement extérieur. Il sait très bien qu'il faut qu'il y en ait. Mais il nous alerte sur le fait que le comportement extérieur à lui seul ne prouve pas complètement l'existence de cet amour intérieur dont il a une très grande idée. Cette capacité de se donner comme le Christ, d'aller jusqu'au bout, d'embrasser le lépreux, de se mettre au service de la plus grande misère, etc. Mais saint Paul, évidemment, avec sa tendance assez paradoxale, semble mettre à distance tous les comportements concrets en disant que la charité surnaturelle est tellement transcendante que elle ne s'identifie avec aucun de ses comportements. Alors, Saint-Jean peut-être a une autre piste qui est un peu complémentaire, parce que sans cesse il fait quand même lui appel à l'expérience. À ceci nous connaissons que nous aimons Dieu, que nous aimons les enfants de Dieu, et réciproquement. Donc, il a bien l'air de nous dire que malgré tout, l'amour, il s'incarne bien dans des comportements. Il n'est pas à distance des comportements. Mais ça veut dire aussi que il faut de bons yeux aussi, quelquefois, pour le voir. Et que c'est pour ça qu'il y a des saints qui ont vécu parmi les hommes, qui ont particulièrement remarqué qu'ils étaient des saints. Vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, quand elle. Peu avant sa mort, il y a une religieuse qui dit celle-là, on ne sait pas ce qu'on pourra dire dans sa circulaire mortuaire pour qu'est-ce qu'elle a pu faire de bien sur terre. C'était quand même Sainte Thérèse de Lisieux, dont la charité, la délicatesse, l'extrême don à ses sœurs était si extraordinaire, pour croire que ce n'était pas évident à tout le monde. Puis Jésus a vécu 30 ans à Nazareth, il ne semble pas que ces gens sont tombés à genoux devant son comportement. Donc il faut faire attention. Non pas pour suspecter l'absence de charité, mais de se rendre compte que sans doute ce que saint Paul nous dit est si haut, si élevé, si profond, qu'on ne peut pas le réduire purement et simplement à un comportement. Il faut que derrière ce comportement, il y ait une intention très profonde, une intention qui unifie toute la vie. C'est qu'en ce sens... C'est pour ça que sans doute il y a une nécessité que la charité informe les vertus très nombreuses, parce qu'elle s'irradiera à travers, par exemple, à travers la justice, à travers la force, à travers la tempérance, à travers la prudence. Il y aura quelque chose de cette charité qui va redescendre dans des comportements concrets et qui va leur donner une qualité. Profondeur qui à première vue peut-être ne perçoit pas, et que s'ils ne verront peut-être pas tout le monde, et tant pis, hein, ça c'est pas un drame que les autres s'en aperçoivent pas, c'est pas pour autant que c'est Dieu qui le voit, et c'est tout ce qui compte qu'il le voit. Mais la visibilité de l'amour n'est pas évidente dans notre monde. Il faut bien se rendre compte que pour ça, ni nous ne pouvons dire que les autres en manquent, ni nous-mêmes nous décourager parce que nous avons le sentiment que nous n'en avons pas beaucoup, mais sans cesse essayer d'avancer, sans cesse essayer de progresser, sans cesse essayer de mettre davantage cet amour au fond de nos cœurs.
Amen.
Merci, mais c'est pas un sermon. Voilà. Alors, ça demanderait des compléments, sans doute. J'espère que vous les aurez par la suite, notamment dans le prochain cours qui va traiter justement des retombées de la charité dans le domaine des vertus morales.
Merci.